Shoot.
Sud Radio, il est minuit. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.
Bonjour à toutes et à tous, 9 mai, bah
oui,
férié.
Ça va bien les feignants.
Férié.
C'est la semaine des
et oui, on vous l'a dit, donc bah, nous aussi on se repose un petit peu.
Ouais, j'espère qu'on a quand même quelques auditeurs.
Bah oui, nos auditeurs sont là, eux, bah oui. Ils écoutent, ils sont fidèles.
C'est l'avantage de la radio, c'est que
fidèles au poste.
Avec l'appli Sud Radio.
Et on vous emmène en voyage avec Hervé Pochon, Loana Belmondo et Alessandro Belmondo. On va commencer avec quelqu'un qu'on aime beaucoup.
Passionne.
Voilà, Hervé Pochon qui a traversé la France pour aller à Compostelle, ensuite la Diagonale du Vide, et là c'est la transversale.
Sur le rêve.
Le rêve.
Quel est votre rêve?
Ah oui, quel est votre rêve? Toujours à pied du Rhin au Raz, de Strasbourg à Brest, et il parcourt 1350 km.
Et on avait réussi à le faire venir en studio.
Juste avant qu'il ne parte, et évidemment, branchez-vous sur la balado de Pochon, c'est formidable, c'est des rencontres incroyables. Hervé Pochon, tout de suite.
Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman.
Hervé Pochon, vous êtes journaliste, comédien, vous avez été longtemps sur France Inter et vous avez depuis quoi, combien de temps, 3-4 ans, décidé de devenir
masochiste.
De marcher. Vous avez commencé.
J'avais commencé à France Inter, ouais. Pour être honnête. J'avais fait le chemin de Stevenson, qui est chemin qui va de Monastier-sur-Gazeille jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, qui est à peu près 220 km. Et j'ai fait ça avec un âne. Et ça avait bien marché. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un moyen. C'est pour moi le meilleur moyen de rencontrer les gens et de les interviewer. Parce que les gens me disent, mais pourquoi tu fais pas ça à vélo? Tu irais plus vite. Mais non, mais à vélo, je serais encombré avec mon vélo, alors que là, je marche, je vois quelqu'un qui arrive en face de moi, il a le temps de me voir, et puis je sors mon micro, et puis je commence à parler, et ça se passe facilement. Alors, quoi. Ouais.
J'ai fait une petite vanne sur le masochisme, mais est-ce qu'il y a un moment où vous avez dompté la douleur? Est-ce qu'il y a un moment...
Est-ce qu'il y a de la douleur?
Est-ce qu'il y a de la douleur dans ces marches qu'on fait de 20-25 km? Et est-ce que vous vous astreignez à dire, allez, je marche encore, je vais peut-être faire une nouvelle rencontre, je vais peut-être en rencontrer quelqu'un, où il n'y a aucune douleur, en fait?
Non. Il y a zéro douleur, sincèrement. Enfin, le soir, il y a de la fatigue, mais non, je suis pas maso parce que c'est que du plaisir. À la fois, c'est du plaisir dans mon travail, si je puis dire, pour interviewer les gens, c'est facile. Et puis, moi, je trouve que la marche, c'est quand même, avec la natation, les deux sports, entre guillemets, les plus doux. Possible, et donc on va à son rythme, je suis pas dans la recherche de la performance, je suis pas là à me dire il faut que j'arrive à Brest avant telle date. J'ai promis à ma femme et mes enfants que je serai de retour au plus tard 2 mois après le jour du départ, donc je prévois un peu large, et à tel point que pour la Diagonale du Vide, j'étais un peu en avance et je suis rentré en stop en continuant à faire des podcasts, en interviewant les gens, et c'est super parce que même avec le stop, on fait des... Et j'ai découvert ça aussi, c'est que... t'entends, là, par exemple, autant pour Compostelle, moi j'étais un intégriste, hein, j'ai jamais posé mon cul dans une voiture, j'ai tout fait à pied. Autant la Diagonale du Vide, j'ai pas peur de le dire, que de temps en temps, quand je me tape 5 km d'une départementale où il y a rien et que j'entends une voiture, je tends mon pouce, tout en marchant, quoi. Et souvent, les voitures s'arrêtent, et parce que peut-être qu'il y a le sac à dos, peut-être...
Qui vous prend?
Je pense à... Alors ça tombe bien parce que je pense à une auditrice qui écoutait Sud Radio.
Ah, c'est drôle.
Et elle s'appelle Valérie en plus. Et elle me disait... elle était femme de ménage et elle allait d'une maison à une autre pour justement faire son travail, quoi. Et
c'est vrai que... Il n'y a pas la peur aujourd'hui. Le stop, ça a été très populaire dans les années 70. Mais aujourd'hui, même dans les rencontres que vous faites, c'est-à-dire l'inconnu, il n'y a pas un petit mais qu'est-ce qu'il me veut, qui c'est celui-là, c'est pas un fou.
Je pense que les peurs, il doit y avoir de la peur, mais les gens qui ont peur ne s'arrêtent pas, quoi. Vous avez raison, je suis assez impressionné et vraiment touché de voir qu'il y a autant de femmes seules qui m'ont pris en stop, quoi.
Vous êtes beau garçon.
Oh, merci Valérie. Vous savez, là, vous me voyez, je suis rasé, mais quand je marche,
oui,
je me rase pas.
Ouais,
j'ai vraiment le plus la tête de...
Oui,
de,
beaucoup de femmes seules, de... donc qui s'arrêtent.
Eh oui, et je pense... Et de tous âges, il y a des jeunes... alors ça, c'était assez rigolo, parce qu'il y en a une, elle était allée refaire son passeport, il lui a fallu, je sais pas, faire au moins 40 kilomètres, parce que forcément, voilà, c'est un peu la diagonale du vide, c'est un peu la France où il n'y a plus tous les services
vous
publics.
Vous étiez parti de...
J'y vais dans les Ardennes,
ouais.
Et j'ai traversé tout en diagonale comme ça pour arriver jusque dans les Landes à Messanges.
Voilà.
Et il y a une fille, à un moment, qui me prend en stop. Et puis, quand je monte, je vois, excusez-moi, France Inter qui apparaît sur sa radio. Et donc, elle me dit, vous faites quoi, vous, et tout. Alors là, je sors mon micro et puis je lui dis, moi, vous voyez, je traverse la France à pied et tout. Ah, mais vous m'interviewez? Et je lui dis, oui, parce qu'avant, vous voyez, je travaillais sur la radio qui est affichée sur votre truc. Alors je lui dis, ah bon? Elle me dit, ah bon, mais vous appelez comment? Je lui dis, Hervé Pochon. Non, vous êtes Hervé Pochon. Voilà, j'étais trop fier.
Ah ouais, non, c'est
ça qui est bien avec la radio, ouais. C'est que finalement, je veux dire, moi, si je faisais ça à la télévision, ça serait, c'est impossible. Il n'y a plus le plaisir de se dire ah bah tiens, je parle à un inconnu. Non, ce serait plutôt les gens s'arrêteraient en disant ah bah tiens, je vais prendre Christophe de Chavannes et je vais lui poser des questions.
Ouais. Je vais trahir un secret, si
dites-moi.
Vous le permettez. Il y a eu des échanges de mails pour que vous puissiez venir ici.
Ouais.
Et vous avez expliqué que, parce qu'on n'en a toujours pas parlé, que votre but dans ce nouveau podcast, c'est d'aller voir les rêves des gens. Et vous avez écrit que votre rêve à vous, mais comme une boutade, était de revenir à France Inter, la radio vous manque.
Ah non, c'est pas ça que j'ai dit mon rêve, c'était, j'ai dit que un de mes rêves, ça serait que France Inter me rappelle.
Oui, c'est
mais,
vrai.
Mais je ne suis pas sûr que je décrocherai.
Exactement.
Ah, voilà.
Et voilà, parce que la nuance est importante, parce que c'est vrai que...
Ça a été assez brutal, le départ.
Voilà, il y a comme une blessure.
On peut saluer Noël Bréham, qu'on va recevoir jeudi, qui a une histoire similaire.
Ah bah oui, je la salue et j'espère que son histoire se terminera.
Elle viendra pour un livre.
Aussi bien que la mienne. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'est une blessure, un licenciement comme ça, quand vous commettez aucune faute. Mais bon, voilà, j'apprends rien. Enfin, il y en a
des
milliers.
C'est la vie des médias.
C'est juste qu'on en parle peut-être un peu plus parce que ça se passe dans les médias. Mais en plus, moi, je peux dire que j'ai été très bien traité par Radio France, qui, avec 200 CDD, m'a donné 50 salaires. Donc, je peux même vous dire, c'est pour ça que je suis pas maso, c'est que je serais même pas obligé d'aller marcher si je voulais.
Je parle de l'outil radio, c'est quelque chose qui vous manque?
Mais c'est plus la famille, pour vous dire. Moi, j'avais vraiment l'impression de faire partie. Et il y a tout un discours dans l'entreprise qui est comme ça. Quand vous avez les sondages, vous savez ce que c'est.
Sûr.
On vous dit, famille, regardez, on est tous ensemble et tout. Et donc, bêtement, j'y ai cru. Je me suis dit, je fais partie de la famille. La famille ne peut pas vous faire du mal. Si, en fait, la famille, à un moment, elle peut te dire, écoute, tu fais toujours la même chose, au revoir. Et ça, c'est pour moi une blessure. Mais il y a une personne qui a décidé ça. Moi, dans la radio, j'y avais beaucoup d'amis et toujours beaucoup d'amis. Quoi.
Ouais, la diagonale du vide, Saint-Jacques-de-Compostelle, et donc cette fois-ci ce trajet Parlement européen symbolique avec les élections au mois de juin jusqu'à Brest.
Exactement, c'est du Rhin au Rat. Et c'est encore... alors, c'est vrai que ça n'a pas la connotation poétique qu'on pouvait donner à la diagonale du vide, même si certaines personnes trouvaient que c'était péjoratif de parler de la diagonale du vide. Donc c'est pas un trajet qui est un peu inscrit dans la mémoire. Ce qui est assez rigolo, c'est quand vous prenez une carte de France et que vous faites Strasbourg-Brest, c'est horizontal, mais vraiment horizontal. Et les gens sont persuadés que je vais passer au nord de Paris, alors que pas du tout, je passe au sud de la forêt de Fontainebleau. Je passe à Fontainebleau, après, il y a Chartres. Donc, en fait, je vais croiser mes deux chemins que j'ai faits.
Oui, c'est ça va faire un moment. Il y a un point où vous allez... un point où vous pouvez vous retrouver, c'est-à-dire sur les deux précédents parcours.
Ah non.
Il n'y a pas eu de point de croisement.
Si, quand j'ai fait la diagonale, j'ai croisé mon chemin de Compostelle, du côté dans les Landes, à Thaler. Et là, je vais croiser ma diagonale dans la Meuse, mais je ne sais pas exactement où, parce que je ne sais pas encore trop par où je vais passer. Et Compostelle, je risque de le croiser à Chartres, parce qu'effectivement, les deux passent à Chartres. Après, je ne sais pas si je repasserai à Chartres, mais disons que voilà.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans les rêves?
Pardon. Non, je voulais savoir, moi, s'il y avait des villes qui vous réclamaient, aujourd'hui,
c'est
vous
plus
êtes
des départements. Il y a des départements, par exemple, il y a les Vosges qui m'ont dit « Ah, on aimerait bien que vous veniez marcher dans notre département pour faire connaître. »
Sponsorisé.
C'est ce que je leur ai proposé. C'est ce que je leur ai proposé.
Qui vous donne l'argent. Voilà.
Et donc, oui, vous posez une question à chaque fois. Cette fois-ci, c'est quel est votre rêve? Il y avait eu qu'est-ce qui vous rend heureux?
La première pour Compostelle, c'est quel est votre but? Voilà. Puisque voilà, moi, j'avais été licencié, comme on vient de le dire, et je me demandais, mais quel est mon but, quoi, maintenant que j'ai plus la contrainte de d'avoir une émission à produire. Quel est mon but? Et puis, comme beaucoup de journalistes, moi je suis assez paresseux, donc je me suis dit, plutôt que de trouver la réponse, je vais demander le but aux autres, peut-être ça va me donner une idée sur mon but. Et c'est vrai que ça m'a bien nourri, quoi. Je suis arrivé jusqu'à Compostelle en disant que mon but c'était d'arriver à Compostelle. Et voilà. Et après, la deuxième question c'était, qu'est-ce qui vous rend heureux? Parce que, une fois qu'on a atteint son but, se pose la question du bonheur, quoi. Parce que alors, évidemment que les questions se recoupent, parce que il y a des gens qui vous disent que pour être heureux, mon but c'est d'être heureux, et là ça va être quel est votre rêve, parce que il y a des gens qui vous disent, et je suis assez d'accord, il faut tous les jours se réveiller avec un rêve en tête.
Vous pensez que les gens rêvent encore avec la vie qu'on a en 2024, avec les difficultés qu'on a, avec les médias qui sont très pessimistes?
Encore plus, j'ai envie de vous dire. Parce que plus la situation est difficile pour certains, plus il y a une ouverture en se disant « je rêve de ça ». Et je vois mon fils qui travaille dans un restaurant me raconter ce matin qu'il discutait avec un Sri Lankais qui était au bar et qui lui racontait sa vie, que sa femme était restée au Sri Lanka depuis 4 ans, il ne l'a jamais vue, et il a eu une petite fille qu'il n'a toujours pas vue.
Mais non.
Et son rêve, et il dit « je me réveille tous les matins avec un rêve, quoi, et j'ai envie de… je voudrais revoir ma fille, quoi. Mais en fait, il a forcément pas les papiers, il a l'autorisation de travail, mais il a pas les papiers, donc il pourrait quitter le territoire, mais pas revenir, et il peut pas faire venir sa femme non plus. Enfin, donc, son rêve, il est très concret, quoi, et qui le maintient et qui le fait avancer, quoi.
Et il y a un auditeur qui aimerait voyager avec vous. Son rêve, c'est de partir marcher avec vous.
Ah, c'est magnifique.
Oui. Oh, c'est gentil, ça. Mais d'ailleurs, il y en a de temps en temps, vous savez, comme je suis sur Twitter ou sur Instagram, HPochon. Les gens voient mon parcours et me disent « Ah, mais vous arrivez près de chez moi, est-ce que vous pouvez venir dormir à la maison ?» Donc ça, je remercie beaucoup, parce que effectivement, c'est souvent comme ça que je trouve des hébergements. Et puis parfois, il y en a qui disent « Est-ce que je peux marcher un peu avec vous ?» Et moi, j'ai du mal à refuser. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je leur dis « Mais je ne peux pas être tout le temps avec quelqu'un, parce que mon but, c'est de rencontrer l'autre. »
C'est ça coupe les rencontres.
Voilà, c'est un peu difficile d'avoir toujours quelqu'un qui est à côté, puis qui écoute les questions et les réponses des autres.
Allez, on vous écoutera donc à partir de mardi.
Mes podcasts seront en ligne à partir de mercredi. Je commence à marcher mardi. Après, mardi, je fais le montage. Et mercredi matin, vous avez à 6h du matin
pendant deux heures
le balado de Pochon. Près,
ouais. On se fera un petit visio.
Avec
avril-mai pour savoir
si je vais pas trop dans le sud cette fois-ci. Voilà. Avec plaisir.
On se fera un petit visio. Apple
Podcast, Castbox, Podcast Addict, Amazon, Spotify. Vous êtes partout, Hervé Pochon, le balado de Pochon.
C'est super. Hein.
Abonnez-vous.
Je vous écouterai des heures.
On écoute ça pendant des heures. Merci et bonne route, vous dit Stéphane, qui nous raconte que lui, quand il était à la DAS, on les envoyait pendant 10 jours à deux marcher et se faire tamponner dans des villes, des passages, que c'était quelque chose qui l'a marqué.
Mais d'ailleurs, je vous conseille un livre, Valérie, qui lisait beaucoup, qui s'intitule Le chemin des estives et qui raconte l'histoire de deux jésuites. Et il y a ce qu'on appelle le mois du mendiant, il paraît-il. Et avant d'être vraiment jésuite, on vous envoie marcher pendant un mois et vous n'avez ni carte bleue, ni téléphone portable, vous n'avez rien. Et il faut vous faire héberger et trouver à manger. Et vous n'avez pas le droit d'avoir le curé du coin en disant oui, on est des jésuites, vous pouvez nous héberger, ça c'est interdit. C'est un super bouquin, c'est écrit par Charles Wright.
Voilà, c'était Hervé Pochon. On vous rappelle la balado de Pochon, tous ses podcasts, toutes ses balades. Tout de suite, on va retrouver Luana Belmondo et Alessandro Belmondo pour un voyage en Italie.
Sud Radio Aix-en-Provence.
95.1.
Sud Radio.
Une larme qui coule.
Chacun dit cours, chacun dit vol, mais pas le jour où je décolle. Chacun dit cours, chacun dit aime, j'ai beau t'aimer, tu pars quand même. Chacun dit marche, chacun dit rêve, me fait en marche ce que j'en crève. Chacun dit certes, je lui pardonne, chacun est un rêve. C'est mon étoile si je perds le nord. Mais si je les ai mérités, mes ailes, je les ai pas volées. J'ai tout fait comme tu m'as dit, mais le rêve s'évanouit. Chacun dit cours, chacun dit vol, mais pas le jour où je décolle. Chacun dit cours, j'ai beau t'aimer, tu pars quand même. Chacun dit marche, chacun dit rêve, me fait en marche et que j'en crève. Chacun dit certes, des tas de choses, mais sur la vie, pas tout rose. Chacun ne dit pas pardonne, chaque est un rêve, pas un homme.
Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann.
Alors c'était il n'y a pas si longtemps, hein, Gilles, on avait reçu Luana Belmondo et son fils Alessandro Belmondo.
Et oui, qui est le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. Et Luana est mariée évidemment avec le fils
de Paul. Et donc ils sont partis sur les traces des Belmondo en Italie. C'est un doc qu'on vous recommande sur Canal Plus Doc, sur MyCanal.
Les traces culinaires, hein, culinaires en particulier.
Oui. Ils en ont fait un livre d'ailleurs qui est formidable, La Nostra Italia, itinéraire gourmand dans l'Italie des Belmondo. Et donc ils nous racontent cette aventure mère-fils, Luana Belmondo et Alessandro Belmondo.
Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann.
On parle cuisine déjà.
Pendant la pub.
Et oui, on peut pas s'empêcher. Luana Belmondo, Alessandro Belmondo. Je rappelle, Alessandro, que vous êtes chef au restaurant Le Caillebotte. Le Luana Belmondo, est-il besoin de vous présenter? Je ne pense pas en termes de cuisine. On sait que vous êtes une pointure. Apparaître demain, La Nostra Italia, itinéraire gourmand dans l'Italie des Belmondo. C'est un livre qui retrace un peu ce parcours qu'on va pouvoir découvrir sur Canal Plus samedi à 21h, donc c'est sur MyCanal aussi, et sur Canal Plus Doc en particulier. Ce périple, cette expédition, ce parcours initiatique peut-être que vous avez eu envie de faire avec Alessandro, Luana, pour partir à la découverte de ce patrimoine culinaire et aussi de l'histoire des Belmondo.
Oui, effectivement, en fait, j'ai voulu... donc, on a cette passion commune avec Alessandro qui nous réunit. Ouais. Et j'ai voulu l'amener, parce qu'il connaît très bien l'Italie, dans des lieux qu'il connaissait moins. Alors la Sicile, par exemple, c'est une région que Alessandro ne connaissait pas du
tout. Non, je ne connaissais pas du tout, non.
Mais qui parle plus de l'histoire des Cerito. Les Cerito, c'était la grand-mère de Jean-Paul, donc de la famille de son papa. Donc je voulais réunir en fait mon Italie avec son Italie aussi, côté père. Donc c'était tout ça, c'est un mélange.
C'est un mélange, en fait,
cet itinéraire, il va, c'est un peu un héritage.
Ça vient de là, parce qu'avant les films de Belmondo, il y avait un logo Cerito Film.
Oui,
la maison de production.
Oui,
la maison de production. Ah, et donc quand on voyait Cerito Film,
on a été,
ça vient de la film. Ça vient des Cerito.
Ça vient de Cefalù. Et Cefalù, mon arrière.
Ah, c'est pour ça qu'il a appelé sa boîte de prod.
Cerito Film. Cerito Film. Voilà. Vous savez tout. Et Alessandro, vous, donc comment vous avez vécu ce. On va laisser, je pense, aussi nos auditeurs découvrir, parce que c'est un document qui se vit.
Faut le vivre.
Oui, c'est ça.
En fait, c'est parti. En fait, on est allé en Sicile tout de suite.
Ouais.
Et moi, la Sicile, comme a dit justement maman, je ne connaissais pas du tout. Je savais que notre famille venait de là. Et en fait, je vais, moi, vraiment de découverte en découverte, surtout en Sicile. Et après, on va en Toscane, donc retour un peu sur mon enfance. Rome, moi, je l'ai toujours dit, c'était maman et moi. Et après, on est allé à Venise.
On a terminé par Venise. Et à chaque fois, on parle bien sûr des cuisines, on fait des rencontres extraordinaires. Je voulais qu'Alessandro surtout aille se souvenir. Et je dis toujours, là, c'est un documentaire, mais si dans la vie, on peut faire un voyage avec son enfant, dans n'importe où,
c'est un endroit,
c'est un souvenir incroyable qu'on portera aux joueurs en soi.
Au début, on voit, c'est formidable. On voit un vieux monsieur et qui cultive des pistaches, de chez Pistache.
Pistacchio di Bronte.
Voilà. Et là, il fait quelque chose de formidable. Il fait des raviolis à la pistache.
Les fameuses raviolis.
Et dans la pâte, il met plus de 10 œufs.
Oui, c'est ça, oui. Alors, le fameux... on dit toujours que pour 100 grammes de farine, il faut un œuf et une pincée de sel. Et bien là, c'était, je ne sais pas...
Il y avait pour un kilo au moins 12 œufs, 15 œufs.
Un poulailler.
C'était...
Et la pâte, elle était magnifique.
Ouais. Et vous la touchez, c'est ce que disait Gilles. Oui, pendant la pub, vous avez ce...
Moi,
vous dites que vous avez un toc en cuisine.
J'ai deux tocs en cuisine, c'est que j'adore toujours mettre la main dans la matière.
Ouais.
Et après, la sentir. Et je trouve ça... peut développer des idées, puis on a tous un peu une mémoire à la fois olfactive, gustative, et comme ça, moi, je travaille ma mémoire, et puis je pioche, et je crée comme ça.
Ouais. Est-ce que vous, alors, Stéphane, un auditeur dit, si vous aviez dû composer un menu pour Jean-Paul, Belmondo, Lino Ventura et Gabin, quel aurait été ce menu?
Un menu avec plein d'antipasti, au moins deux types de pâtes, un menu où il s'assoit à midi.
Un gros rôti,
oui.
La charcuterie.
Qu'est-ce qu'il aimait que vous lui cuisiniez, Jean-Paul?
Bon osso buco, de la polenta. J'aurais tout fait.
Vous auriez tout fait. Tous les plats italiens.
Non, les trois surtout. Ouais. Ils étaient très gourmands. Ouais. Et je crois que les trois à table, ils seront restés 24 heures. Donc, il aurait fallu les nourrir.
C'était la grande bouffe.
Mon beau-père,
qu'est-ce qu'il aimait?
Oui, les pâtes.
Les pâtes. Et lesquelles en particulier? Il y en avait une qui vous réclamait.
Oui, les penne
à l'arrabbiata.
Un peu pimenté, sauce tomate. Assez simple. C'était quelqu'un qui n'aimait pas trop.
Et votre papa, Paul Belmondo, c'est un gourmand, parce qu'on n'a pas l'impression, parce qu'il est sportif, il est coureur automobile.
C'est un gourmand, papa, il aime bien manger, mais il sait faire qu'une seule pâte. Et en fait, depuis tout petit, il cuisinait toujours les mêmes. Il faisait des pâtes avec tomates confites dans 2 litres d'huile d'olive, un peu d'ail et du basilic, des penne. Il nous faisait ça, et elles sont très bonnes. C'est les seules qu'il faisait faire, mais à chaque fois, elles sont toujours très bonnes.
Votre souvenir d'enfance à vous, votre Madeleine de Proust, Alessandro, ce serait quoi?
Moi, la vraie Madeleine de Proust, c'est maman ou ma grand-mère, Nonna, qu'on appelle comme ça en italien, quand elle faisait les pâtes à la sauce tomate.
Ouais.
En fait, elle les commençait très tôt.
Ouais.
Donc le matin, on se réveillait avec toujours une odeur de sauce tomate dans la maison.
Ah,
et moi, c'est ce qui me reste très souvent. Et il y a aussi les capelli timbrodo, donc ce sont des petits raviolis dans un bouillon de poule. Ça, c'était plus Nonna qui les faisait, et quand elle était un peu plus jeune, elle nous les faisait maison, et j'ai ce souvenir de goûter la farce, de goûter la pâte crue, et déjà, tout jeune, de goûter, en fait, les aliments un peu accrus.
Et cette envie, pour être mince,
Je travaille en cuisine.
Et cette envie de, cette envie de cuisiner, justement, de prendre le relais de Loana, de cette envie, oui, de devenir cuisinier, elle vous est venue quand?
Moi, elle est venue très jeune, très tôt en fait. C'est toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Après, j'y suis arrivé un peu plus tard parce que c'était pas encore à la mode d'être cuisinier.
Ouais.
Mais avec le temps, j'ai réussi à convaincre maman et papa de leur dire que c'était ce que je voulais faire.
Ouais.
Mais je pense que tout jeune, ça vient du fait que j'ai toujours bien mangé. On a toujours bien mangé à table, toujours cuisiné. Maman, elle a toujours eu la curiosité de nous faire à manger de nouveaux produits, nous faire goûter des nouveaux produits. Et je pense de là, c'est devenu cette gourmandise. Et sûrement la générosité qu'avait maman à cuisiner pour nous, pour nos amis.
Bien
et
sûr.
Sûrement l'envie d'être aussi à mon tour généreux.
À quel moment vous avez su que vous aviez un grand-père différent?
Bon, très jeune. En fait, moi, j'ai vu très tôt ces films. Je sais que le premier film que j'ai vu, j'ai dû avoir 5-6 ans et c'était L'Animal.
Ouais.
Et ça reste aujourd'hui, je pense, une Madeleine de Proust et je le regarde toujours.
Film,
c'est vrai?
Ouais. C'est le premier que j'ai vu et ça reste celui que je préfère.
Ouais.
Même s'il y en a 50 000 meilleurs. Sûrement Le Magnifique aussi pour beaucoup, mais pour moi, c'est mon préféré et c'est celui que j'ai vu en premier.
Ce document, vous l'avez construit comment, le Anna Belmondo? Parce que c'est un trajet à travers l'Italie, des régions que vous connaissiez pas forcément. Comment vous l'avez construit? À partir des produits ou à partir des souvenirs? Ou les deux en même temps?
Des souvenirs. Vous savez, l'Italie, c'est un peu comme la France. C'est un énorme potager où chaque région a ses productions, où chaque région vraiment en produit partout. Donc, j'étais sûre que de toute façon, où j'allais trouver des produits. Non, je l'ai construit autour, à la base, en fait, d'un héritage, d'un itinéraire, de retourner sur des traces.
Oui.
Voilà, je voulais surtout ça. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'Alessandro rencontre aussi des personnes assez particulières.
Bien sûr,
Il y a cette femme forte.
Marcella.
Qui a connu d'ailleurs Jean-Paul, avec une énorme bâtisse incroyable.
Oui,
c'était un ancien corps de ferme, c'était avec une piscine incroyable.
Ouais.
Et là, il y a un petit secret. Je ne sais pas si vous l'avez avec vous. Vous dites que vous avez un carnet qui vous quitte jamais.
Alors là, je l'ai pas pris sur moi, mais je les ai toujours
dans le reportage.
Non, je ne.
Et donc vous dessinez, vous notez les plats, les odeurs.
Quand je dessine comme un enfant de 2 ans, mais je dessine quand même parce que ça me permet de voir où placer mes aliments. Mais j'écris toujours.
C'est toujours un carnet avec vous.
J'ai toujours un carnet pour saisir. Maintenant, avec le téléphone aussi de temps en temps, mais je le retranscris toujours sur mon carnet si je l'ai pas.
Ah juste, tu voulais le feuilleter.
La prochaine fois, je vous le ramène.
Mais
j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. J'en ai plein de remplis de recettes.
Ouais, vous avez redécouvert des produits là-bas, Loana, parce que vous retournez aussi aux origines d'une certaine tradition de la cuisine italienne.
Oui,
avec,
même à Rome, que c'est quand
c'est
même
votre ville.
Ma ville natale. Ouais. Je l'ai amenée voir la dernière biscuit.
Biscuiterie
romaine.
Ouais.
Et là, je retrouve quelqu'un qui venait à l'école avec moi. C'est-à-dire
c'est
que moi, je la connaissais, mon père m'a amené là-bas. Mais je ne me rappelais pas qu'elle était à l'école avec moi. Donc, on a été.
C'est drôle.
Et c'était un moment en plus intense pour moi aussi, parce qu'on s'est parlé, mais Loana. Et ça, on le voit aussi. Et ce qui est beau, c'est voir ce qu'elle lui expliquait, par exemple, que le jour qu'un morceau de cette vieille machine qui a plus de 100 ans tombe en panne, de ce four à l'ancienne, et ben, cette biscuiterie fermera.
Ouais.
Donc il y a des moments aussi
assez émouvants.
Et on peut avoir juste avant la pub, on peut avoir une pensée pour quelqu'un que connaît très bien les auditeurs, Patrick Roger, parce que Patrick Roger est à l'origine de ce documentaire et de la rencontre avec le producteur qui vous a fait rencontrer le producteur, et c'est pour ça qu'il est né, on
Philippe
est d'accord,
Thuillier.
Ce documentaire Philippe Thuillier.
Oui, coucou Patrick.
Coucou à Patrick Roger qui pouvait pas être là ce matin, mais
effectivement, il y a quelques années, on avait des idées, mais c'était un autre documentaire.
Ah.
Mais effectivement, il m'a présenté mon producteur qui a réalisé celui-ci.
Qui est Philippe Thuillier. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour parler de l'Italie gourmande, de cette relation mère-fils et et de ce passé et de cette comment on va dire, de cette cuisine italienne si puissante, si forte et qui reste l'une des meilleures du monde quand même. À tout de suite.
Écoutez Sud Radio Le Havre en DAB+.
Sud Radio.
Avec ses arguments de te faire un papa, Cécile, ma fille.
Quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit alors jubile. Ce sera un garçon et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà et me voici moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. Dans les yeux, quel est le plus étonné des deux?
Bien avant que je t'aie des filles, j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile, de la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile. Ma fille.
Et je sais que bientôt, toi aussi, tu auras des idées et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille.
Moi je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais.
Que toujours on te touche comme moi. Maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant, Cécile, ma fille.
Midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.
Toujours avec nos invités Alessandro Belmondo et Luana Belmondo, samedi soir 21h sur Canal Plus Doc, Belmondo, l'Italie en héritage, un itinéraire gourmand à travers l'Italie des Belmondo. C'est également un livre qui peut prolonger cette balade et un livre avec des recettes, des photos, La Nostra Italia qui paraît demain chez Solar Le Cherche Midi. Donc c'est encore une fois une balade gourmande, une balade émouvante entre vous. On parlait de ces souvenirs que vous avez, de ces découvertes. Je disais, la cuisine italienne, une des meilleures du monde, elle reste une cuisine de femme, une cuisine aujourd'hui de, j'ai envie de dire, une cuisine de cuisine, c'est-à-dire qu'on est au fourneau réellement et ce sont des plats qui ont, Alessandro évoquait le fait de travailler le matin. C'est une cuisine différente quand même de la cuisine française.
C'est, alors, pas, on a les deux plus bonnes cuisines au monde, l'Italie et la France. Ouais. Après, oui, effectivement, moi par exemple, ça m'est bien comme ça. Quand je suis à Rome et le matin, je descends les escaliers à 9h, tout de suite, chaque étage, je sens un parfum de quelque chose qui est en train de mijoter. Quand je le fais ici à Paris, même chose, immeuble, je descends les escaliers, ben je sens rien. C'est-à-dire que oui, c'est une cuisine, la cuisine est importante, manger c'est important, très souvent, un peu moins maintenant, mais très souvent à l'heure du déjeuner, on fait la sieste. Ouais, vous savez, même les magasins ferment de 13h30 à 16h dans certains quartiers. Mon quartier à Rome, il ferme.
Ouais,
pourquoi? On rentre à la maison, on mange à la maison, on se repose et on recommence. Oui. Donc c'est vraiment un rituel. Donc la cuisine est vraiment importante.
Au cœur,
au centre du quotidien.
Et plus une cuisine de femme, vous diriez, que la cuisine française. Il y a eu aussi, évidemment, les mères cuisinières, les femmes au fourneau. Mais en Italie, j'ai ce sentiment-là. Je ne sais pas si vous...
Moi, je suis tout à fait d'accord que la cuisine italienne, elle est très propre aux femmes. Souvent parce qu'à l'époque, les hommes partaient travailler et les femmes restaient à la maison cuisiner. À l'époque, je tiens à préciser.
Ouais.
Mais c'est une
Encore
cuisine.
Aujourd'hui, la femme reste beaucoup à la maison.
Italie, ouais. Alors, moi, j'ai une vraie question. Combien de temps pour mes pâtes?
J'ai deux chefs. Pour les mains.
Combien de temps à bouillir?
Ça dépend des pâtes. Ça dépend des pâtes.
Les spaghettis.
Moi, je dis toujours, suivez.
Je fais bouillir.
Avec du sel.
Et pas d'huile.
Moi, je ne mets
pas d'huile.
On n'a pas besoin.
Mais ça colle.
Mais ça, j'ai jamais vu ça.
Vous ne mettez pas assez d'eau.
Bravo. Voilà l'italienne. Les origines italiennes.
Si vous avez, elle me redresse sur tous mes...
Il faut beaucoup d'eau. La quantité d'eau est importante.
Beaucoup d'eau.
Et attendre que ça boue bien. À ce moment-là, une belle poignée de gros sel. Et vous plongez les pâtes. Il faut les cuire toujours moins de ce que c'est écrit sur votre paquet.
Et après finir.
Et après les finir à la poêle ou dans la sauce, les faire revenir. Un peu d'eau de cuisson, il y a l'amidon, et là vous avez cette onctuosité et ce lien qui s'est fait entre la pâte et votre sauce.
C'est bien ça de mettre l'eau...
Vous ferez une consultation si on en est à faire cuire les pâtes, on n'est pas sorti.
Vous pensez pas que ça intéresse nos auditeurs de savoir comment on fait des bonnes pâtes? C'est incroyable, parce que vous savez tout sur la cuisine, alors forcément.
Pourquoi pas. Il y a aussi beaucoup d'images d'archives dans ce document, parce qu'il y a ce souvenir, il y a la Dolce Vita qui est évoquée de cette époque des années 60 où Belmondo était assez proche de l'Italie.
Absolument, il y a surtout des images d'archives quand on est à Venise.
Oui.
Parce que c'est là où il a tourné.
Il a survolé la lagune dans le Vignolo.
Accroché à l'hélicoptère.
La fameuse scène.
Il est rentré avec un bateau dans le plus bel hôtel, le Danieli. Donc je pense que ça, c'était très important.
Ça, c'était important d'avoir ces images-là.
Des images comme ça, et puis... Alessandro revient un peu sur cette ville qui a été importante pour son grand-père, pour son père aussi.
Et est-ce que justement vous aviez peur pour votre père et votre grand-père, c'est-à-dire que peur de votre père parce que c'était un coureur et donc il se mettait en danger, et votre grand-père même s'il y avait des cascadeurs autour, se mettait très souvent en danger quand même. Il faisait des cascades incroyables, Jean-Paul Belmondo.
On a toujours cette peur que quelque chose arrive. Et avec mon grand-père, pareil. Je me rappelle qu'une fois, on était à l'avant-première d'Une Chance sur Deux. Et j'étais à côté de lui. Et à un moment, il se fait tirer dessus. Je lui ai serré la main comme si c'était vrai. Et alors, j'étais persuadé que c'était vraiment fait tirer dessus. Je devais avoir, je sais pas, 7 ans. Donc, quand il lui arrivait quelque chose, quand il avait mal, je pensais qu'il avait vraiment mal dans les films. Mais au final, je me rendais compte que non. Parce qu'il était toujours là, toujours debout. Mais oui, on a toujours cette peur, même si on sait que c'est faux, dans le cinéma, on a toujours cette peur qu'il se blesse, ça reste quand même mon grand-père et mon père, on avait toujours cette peur, ça reste des membres de la famille quand même.
Ouais. C'était quelqu'un de drôle ?
Jean-Paul, hein, à mourir. Hein. Ouais. C'était... Mais plus qu'est drôle, en fait, rien que le regarder, Jean-Paul était la joie, la légèreté, la bonne humeur. Il s'est jamais plaint, jamais jusqu'à la fin de sa vie. C'était quelqu'un qui croquait vraiment la vie d'une façon incroyable et qu'il mettait cette joie et cette bonne humeur. Ça suffisait de le voir et d'un coup, on s'est sentait mieux. Mmh. Donc, c'était surtout ça. Après, drôle, bien sûr. Bah, de toute façon, qui l'arrêtait ? Qui pouvait l'arrêter ? Ici, sur le plateau, il aurait pu se mettre, s'il avait envie, au milieu, sauter, grimper, faire. Oui. Il faisait plein de blagues aussi à aussi. Et il arrivait, il faisait semblant de tomber dans la piscine, qu'il était glissé. Alors, il tombait avec les portables, avec la veste, quand il rentrait des tournages, alors qu'elle devait servir 2 heures après. Mais bon, pour faire rire les enfants, il était
prêt à tout.
Vous, la transmission, c'est important, on le voit, mère-fils, il y a un petit-fils maintenant, là aussi, vous lui faites goûter de tout. Est-ce que Luana a été au-delà de ce que vous autorisiez ? Parce que c'est ce qui se passe un petit peu maintenant, où nous, on donnait tout à nos enfants.
Mais
non, vous l'avez vécu,
changé.
Ça
Tout a changé. Je me faisais gronder. Alors, quand je le gardais, quand il était pété, comme les parents partaient,
vous faites plaisir.
J'ai donné plein de choses à goûter. Mais maintenant, vous avez vu, vous êtes grand-mère aussi. Ouais. Tout a changé, ça. Non,
absolument.
Jusqu'à l'âge de 2 ans.
Voilà.
Ça, moi, ils ont
moi,
tout
j'ai grandi.
Goûté. Donc, 6 mois, il avait les pâtes, le parmesan, tout.
Ouais. Donc, vous faisiez en cachette.
En cachette d'eux,
oui. Bon, je suis sûr. Hein. Je la connais, maman.
Et il est gourmand.
Il est gourmand. Alors maintenant, c'est l'âge un peu difficile où tout ce qui est vert, on n'aime pas trop.
Mais c'est important d'éduquer le goût.
Mais le palais, il est important. Mmh. Donc mes enfants, les trois, ont été habitués à un palais qui est divers.
Et à goûter plein de choses.
Après, il y a des étapes où des choses, ils ont moins envie. Ouais. Et donc, mais après, ça les vient.
Parlez-nous de ces producteurs que vous rencontrez en Italie, qui sont là aussi dans la tradition de perpétuer une transmission dans un certain savoir-faire et avec certains produits. On parlait des pistaches tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des producteurs incroyables en Italie.
Oui, on a rencontré beaucoup des producteurs déjà. Ce que je voulais, c'était quelque chose de générationnel.
Oui, c'est ça.
Parce que comme entre Alessandro et moi, ce voyage quelque part, c'est un peu une transmission générationnelle. Je voulais qu'on aille à la rencontre vraiment de ces hommes qui travaillent la terre, qui sont aussi des pêcheurs ou des éleveurs, mais qu'il y ait une tradition. Et à chaque fois, on a rencontré des personnes qui sont donc passion, passionnée, c'est toute leur vie.
C'est ça qui est intéressant dans le document.
C'est incroyable.
C'est que vous allez vraiment à la rencontre et qui sont heureux de partager aussi avec vous et qu'on les reconnaisse dans leur travail.
On est dans leur émotion, on rentre dans leur vie. Très souvent, c'est familial.
C'était presque à chaque fois familial en plus.
Et moi, ce que je voulais, surtout pour Alessandro, qui est un jeune chef quand même, déjà depuis un moment chef, mais un jeune chef, c'était justement lui faire comprendre que le produit que lui, il allait transformer, d'où il arrivait.
Bien sûr.
Que derrière tout ça, c'est pas tout, juste avoir, les amandes, par exemple.
Oui.
Grande
histoire, les amandes.
Oui.
Ah oui.
Les amandes, on met un bol d'amandes, là, hop, on les avale comme ça et on parle. Oui. Mais l'amande, comme elle est cueillie en plein soleil, en plus, parce qu'il faut qu'elle soit bien sec. Donc, elle est tapée à la main. C'est un travail incroyable, incroyable. Oui. Ouais. Et ce respect qu'il faut que nous portions aux produits et à ceux qui nous donnent cette chance d'en profiter, il faut qu'on le sauvegarde.
Et puis il faut dire qu'on fait des bonnes choses avec des bons produits. Je me souviens de Jean-Pierre Coff qui disait pour les confitures, il faut des beaux fruits, on ne prend pas des fruits pourris. Et c'est pareil pour les sauces tomates, on ne prend pas des tomates pourries, on prend des bonnes tomates. Et le goût est très, très,
très important, et on ne prend pas les tomates en hiver.
Non.
Par exemple. Alors, question à la maman et au fiston. On va commencer par la maman. Vous avez mangé quoi hier soir?
Hier soir, qu'est-ce que... j'ai mangé des pâtes. Des pâtes avec de l'huile. J'étais seule hier soir. Je suis rentrée tard. Et je me suis fait des spaghettis, justement. Huile d'olive, ail, anchois, capre. Je fais revenir et après j'ai ciselé basilic et persil. Oh bah oui, ça m'a pris en tout 12 minutes.
Alors moi hier soir ça a été très simple parce que moi hier soir c'était français. Et en fait j'ai un petit péché mignon, c'est le fromage. Donc je suis allé m'acheter du fromage chez un producteur près de chez moi et je me suis fait un plateau de fromage, salade et un bon pain du boulanger. Avec une bonne confiture au piment d'Espelette.
La France et l'Italie. Ne manquez pas ce doc. De toute façon, vous le savez, sur Canal Plus Doc, c'est en replay, disponible à toute heure du jour et de la nuit, si vous avez une petite faim. Et non, mais c'est un magnifique document parce qu'il y a cette complicité. Il y a à la fois de l'émotion. On apprend plein de choses. On découvre des paysages sensationnels. Et puis le livre, La Nostra Italia, itinéraire gourmand dans l'Italie des Belmondo, qui paraît demain aux éditions Solar et Le Cherche Midi. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.
Depuis cette émission, Valérie, je mets plus d'huile dans l'eau de mes pâtes.
Évidemment. Et vous mettez beaucoup plus d'eau pour ne pas qu'elle colle.
C'est ce que nous a dit Alexandro et Luana.
Absolument. Et donc, on se retrouve nous demain. Et dans un instant, c'est Stéphanie Demuru qui sera avec vous.
Et demain, on aura Adriana 42.
Sud Radio Limoges.
95.
Sud Radio.
Start to fade in the light. Love is blind.
Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Bonjour à tous, mettez-vous d'accord, jeudi 10 mai, soyez les bienvenus. Bonjour à mes invités, Frédéric Fougera, président du Tinken Paris, agence de communication, cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de l'anthologie de la com. Bonjour Frédéric,
bonjour,
comment ça va? Ravi de vous retrouver.
Ben, ça va super bien.
On va bien, ça va. Il y a pas eu... Vous avez digéré le PSG?
Moi je digère tout.
On avait un petit peu l'impression que le match était au ralenti par rapport à celui d'hier, hein, quand même. Je sais pas si vous avez vu...
Oui, mais aujourd'hui on va pas être au ralenti. J'ai le sentiment qu'on va être en pleine forme ici.
Très bien. Christelle Niasme, conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges. Bonjour Christelle.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue à vous. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy dans le 91, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour Jean-Philippe. Régis de Castelnau avec nous également, avocat qui tient le blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions de l'Artilleur et membre de la rédaction du Front Populaire. Bonjour Régis de Castelnau. Comment ça va?
Bonjour à tous, je vais bien. Ça y est, je crois que le printemps provençal est enfin arrivé.
Ah, hein, vous êtes en Provence, chanceux.
Oui, moi je suis dans ma grotte provençale et donc là, j'ai l'impression que ça y est, là, parce qu'on a eu beaucoup d'eau et puis surtout beaucoup de mistral. Donc là, ça y est, ça redevient civilisé.
On est ravis que vous ayez chaud. Nous, on a encore un petit peu froid à Paris, mais bon, voilà, ça va se réchauffer, paraît-il. Bon, justement, Régis de Castelnau, votre bonne humeur, on va commencer par vous. C'est un coup de gueule aujourd'hui. Vous vouliez, Régis, nous parler de l'usage du terme armistice par la presse pour le 8 mai au lieu de capitulation.
Alors c'est pas décisif, hein. Ça me passait par l'esprit hier quand je regardais un peu les réseaux, je regardais les titres de la presse. Systématiquement, ça témoigne d'une inculture importante qui effectivement qualifie la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme celle de la Première, alors qu'elles n'ont rien à voir. Ça a été un combat épouvantable, ça a été la victoire sur le nazisme. Vous savez, sur Twitter, il y a une série qui s'appelle « Paroles des combattants de la libération extraordinaire ». Tous les jours, il y a un portrait, un petit portrait de gens qui ont donné leur vie, donc pour un combat qui était un combat contre le nazisme, qui était un combat à mort. Et donc voilà, c'est une capitulation, c'est la défaite. C'est pas seulement la défaite de l'Allemagne, c'est la défaite d'un système. Et je crois que ce serait bien que nos amis journalistes fassent preuve d'un peu plus de culture et un petit peu attention aux mots. Voilà, bon. c'est pas gravissime, hein.
Ok, bon, les journalistes en prennent un petit tacle. Ça vous inspire quoi, Jean-Philippe Dugoin-Clément?
Non, ce que dit Régis, c'est vrai, les mots ont leur importance. Bon, après, là où je suis assez frappé, j'avais hésité à faire un coup de cœur ou un coup de gueule là-dessus,
oui.
C'est sur la distanciation de plus en plus forte entre les Français et ce qu'on est, notre passé, nos racines, et en fait, ces cérémonies patriotiques, ces cérémonies du souvenir, du recueillement, qui constituent les racines. Enfin, quand on connaît pas son passé, on peut pas savoir vers quoi on tend. Et on est sur, c'est plus un pont, c'est un viaduc, cette semaine. Et moi, j'ai trouvé hier, pour le coup, moi je suis élu en zone rurale, urbaine, donc j'ai pas mal de commémorations, j'ai dû en faire 5 hier, et qu'il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude, beaucoup moins d'enfants. On sent que les gens sont partis, et que d'une certaine manière, entre le devoir de mémoire ou le devoir de pont, il y a un éloignement de plus en plus fort qui se fait. Voilà, quand j'ai dit ça, j'ai pas forcément de solution, c'est un constat, mais si on enlève les corps constitués, c'est-à-dire les élus, les pompiers, et les associations d'anciens combattants avec les porte-drapeaux, on se rend compte que bah, y a assez peu de citoyens lambda qui viennent à ces cérémonies. Moi, je trouve ça pas forcément réjouissant.
C'est un manque de désintérêt pour vous?
C'est de plus en plus du désintérêt, oui. De plus en plus du désintérêt. Alors, il y avait une petite remontée il y a quelques années, parce qu'il y avait eu une énorme communication, une énorme sensibilisation autour du centenaire de la guerre de 14-18, donc 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 avaient été des années où il y avait eu autour de la Première Guerre mondiale et des commémorations du 11 novembre plus de sensibilisation qui avait été faite. Mais d'une manière générale, on se rend compte que c'est des choses qui se perdent et que surtout on touche très peu de jeunes. Il y a assez peu d'écoles qui viennent. Alors des communes essayent de faire au travers de leurs conservatoires, d'avoir des élèves des conservatoires qui viennent, mais on voit quand même que ce lien, il a tendance à disparaître.
Oui. C'est pas à
et
vous.
Dans un pays oui. qui est quand même de plus en plus, on en parlera peut-être, mais morcelé, qui est tiraillé entre des intérêts, des communautarismes, des souhaits politiques, des souhaits religieux souvent différents, très très conflictuels, ces moments au fond qui rassemblent autour de ce qu'on a pu être, de ce qu'on a pu faire, de gens qui se sont sacrifiés pour qu'on soit là, bah, ils s'effilochent de plus en plus.
Et Frédéric Fougerat, ça vous inspire quoi? Parce que c'est vrai que particulièrement cette Seconde Guerre mondiale, on en parle souvent, c'est difficile à enseigner, notamment l'épisode de la Shoah dans certains quartiers, on en débat souvent. Le manque d'intérêt pour l'histoire, ça vous inspire quoi? Ça vous inquiète?
D'abord, je ne sais pas si on en parle si souvent que ça, et peut-être qu'on n'en parle pas bien, ou on n'en parle plus bien aujourd'hui, ou peut-être qu'il faut trouver de nouveaux mots, de nouvelles façons d'aborder le sujet. Pour rejoindre Régis et Jean-Philippe, en tant que communicant, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, les mots ont un sens, donc il faut quand même faire attention aux mots qu'on utilise. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, le sens de ces journées de commémoration, le sens, il se trouve dans comme le disait Jean-Philippe, dans les RTT, dans les jours fériés, non plus dans le sens de ce que représentent ces jours. Donc peut-être qu'il y a une vraie réflexion à faire sur ce travail de mémoire. C'est ce qui nous rassemble collectivement dans cette époque où tout est communautarisme. Donc si même la mémoire ne nous rassemble pas ou plus, mais peut-être juste parce qu'on ne sait même plus ce qu'il faut mémoriser. On sait combien de jours on a, mais on ne sait même pas forcément ce qu'on célèbre ce jour-là ou ce que l'on commémore. Donc il y a peut-être une vraie question à se poser sur comment commémorer à nouveau ou de façon nouvelle.
Ou alors
on abandonne. Mais à mon avis, on peut se poser la question sur est-ce qu'on peut pas faire mieux ou autrement.
On poursuit nos débats dans quelques instants, juste après un petit arrêt avec tous les quatre. À tout de suite.
Sud Radio Cagnes-sur-Mer
97.9
Sud Radio.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue souffle. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle, la belle Séverine me regardera-t-elle? Éric voulait explorer le subconscient, remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir, si j'y allais pas je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. Pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi, Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Toi Marco qui ambitionnais simplement être heureux dans la vie, as-tu réussi ton pari? Et toi François,
Et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable, les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table. Comme on étale, c'est d'être au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet. Une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. 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 C'était dit, rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Si on est devenu des grands hommes. Des grands hommes. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans.